Je me sens brocante, je suis la méchante. Si mes enfants m'invitent, je fais la pas contente. Et quand ils me visitent, je suis la transparente. Je me sens palote, je me sanglote. Mes enfants me nettoient, des inconnus me sortent. À croire quand je me vois que je suis déjà morte. Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète. Si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés. Fait momie. Mes enfants me déplacent comme un vieux manuscrit. Et j'ai les feuilles qui cassent et je suis mal écrit. Je me sens bizarre, je me vis trop tard. Si je repense aux instants où j'ai fait sans savoir la course avec le temps sans me dire au revoir. Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète. Si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète. Si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la tête, n'ayez pas trop pitié. Bientôt je serai bête et vous aurez oublié.
De son album Recto Verso, c'était Zaz et la chanson Si je perds.
Planches à l'hôpital, c'est un article de Katia Gagnon dans la presse d'aujourd'hui. Les spectateurs qui iront voir le dernier sacrement au centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, seront accueillis au deuxième étage au sortir de l'ascenseur. En les faisant entrer dans une unité de soins palliatifs créée de toutes pièces, on leur attribuera l'une des trois familles qui y ont des proches. Dans l'une des chambres, ils assisteront à la lecture d'un testament. Dans une autre, on célébrera un mariage parce que oui, il y a des gens qui se marient juste avant de mourir. Et puis, on dirigera les spectateurs vers la chambre de Denis Prudhomme, professeur de sciences politiques spécialisé dans les religions, celui qui, à la fin de la pièce, va mourir. Denis Prudhomme, c'est Denis Bouchard, celui qui a écrit et qui jouera le rôle principal dans Le Dernier Sacrement, une expérience de théâtre immersif qui a pour thème le doute et la fin de vie. Un travail d'acteur très particulier, puisque dans cette chambre qui permet aux étudiants en médecine de pratiquer leur futur métier avec de faux patients, les 60 spectateurs seront à quelques mètres à peine de l'action. C'est un exercice d'acteur fascinant. Émotivement, je ne sais pas quelle tournure ça va prendre parce qu'on va être très proche des spectateurs. On ne peut pas tricher. C'est à mi-chemin entre une télé-réalité et une pièce de théâtre. Tout est hyper réaliste, dit Denis Bouchard. Difficile de jouer la mort dans un tel contexte? J'ai consulté des médecins, des gens qui travaillent aux soins palliatifs, qui m'ont expliqué c'est quoi la respiration agonale. Je vais jouer sur la respiration et sur le regard, qui est, semble-t-il, très intense. La pièce est présentée au CHUM à compter d'aujourd'hui. Elle migrera ensuite sur les planches du Théâtre Outremont. Pourquoi est-ce important de jouer cette pièce à l'hôpital? Cette pièce a été conçue à partir de réflexions et de choses que j'ai vues dans les unités de soins palliatifs. Dans un premier temps, on a voulu reproduire une chambre sur scène. Et puis, je me suis dit, « Mon Dieu, je devrais faire ça dans un hôpital. » Mais où? Le Royal Vic est vide, l'Hôtel Dieu est vide. J'ai toujours aimé ça faire des pièces en dehors du théâtre, dit-il. Ici, j'ai bien plus qu'un décor. Denis Bouchard a passé beaucoup de temps dans les endroits où on côtoie la mort pour écrire cette pièce. La pièce est partie d'une phrase que j'ai lue qui disait que les gens qui avaient la foi mouraient plus en paix. Ça m'a interpellée. Je me suis dit que c'était mal parti pour moi. Ça m'a amenée à me poser la question de la fin de vie. Au cœur de la pièce de Denis Bouchard, il y a donc cette question fondamentale de la religion. Le patient prud'homme est agnostique. Il a vécu toute sa vie dans le doute. Son infirmière, Ayana Oshun, est croyante. Au fil de la pièce, il rencontrera également la fille de l'infirmière, Sophia Blondin, qui est non seulement croyante, mais également pratiquante. Ces trois générations et trois points de vue sur la religion, explique Denis Bouchard. C'est difficile pour les gens de ma génération de voir ce retour en force des religions. On pensait que c'était réglé. Et là, il s'ouvre une synagogue ou une mosquée par semaine à Montréal. Mais les plus jeunes nous disent souvent, « Nous, on n'a pas eu à souffrir des religions. Ce n'est pas une pièce qui condamne la religion. » C'est une pièce qui questionne. Malgré ses thèmes plutôt tragiques, la pièce est une comédie, car Denis Bouchard a été renversé par les patients et les soignants rencontrés dans ces lieux de fin de vie. Je pensais que c'était des endroits d'une tristesse sans nom. Ce qui m'a fasciné, c'est qu'on célèbre la vie en fin de vie. J'ai rencontré des gens en fin de vie avec un humour incroyable. J'ai entendu des phrases que j'ai carrément mises dans le show parce que je trouvais ça trop beau. Un exemple? « J'aimerais ça manger vos chocolats, mais je peux pas. » « Je rentrerai pas dans mon urne. » »« Rire de la mort, un pari casse-gueule ?» Au départ, j'avais des craintes. Je ne pensais pas écrire une comédie. Je pensais écrire à partir de ce que je vivais, de ce que je voyais. Mais les gens qui étaient là-dedans, ils me faisaient rire. Les gens qui travaillent aux soins palliatifs qui sont là depuis 30 ans, le contact qu'ils ont avec les gens en fin de vie, j'ai voulu rendre hommage à ces personnes. Et surtout en faisant mourir Denis Prud'homme, Denis Bouchard a pu faire la paix avec la mort de son père, mort d'un AVC il y a 5 ans. C'est torve, un deuil. Quand mon père est mort, j'ai mis ça sur le back burner. Et des années plus tard, je me suis farci une peine d'amour aussi subite qu'inattendue. C'est venu faire revivre quelque chose de pas réglé. En ce sens, la pièce a été une catharsis. Le dernier sacrement sera présenté au CHUM, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 12 mai. Les fonds recueillis iront en partie à la fondation de l'hôpital universitaire. La pièce reprendra au Théâtre Outremont du 17 au 19 mai. Le directeur artistique du Théâtre de Quatsou, Olivier Kemed, a fait du pouvoir le terrain de jeu de sa saison 2018-2019, rappelant lundi que derrière la façade dirigiste de ce mot, il y a aussi un verbe gros de promesses et de liberté à gagner. L'automne débutera en Lyon avec les Barbelés d'Annick Lefebvre après un baptême convaincant à la Colline à Paris. Suivra un duo solide formé de Catherine Vidal et de Marc Beaupré à la barre de la fresque italienne « Chapitre de la chute, la saga des Lehman Brothers ». L'automne finira sur un texte de Rose Maïté Erko-Reka, souveraine au pluriel, sur le pouvoir au féminin. Janvier jouera sur la peur et la culpabilité avec « Noir » de Jérémy Niel. Et succéderont les identités morcelées de « Première neige, first snow », une collaboration québéco-écossaise. Le mot de la fin sera tout bergmanien avec « Scène de la vie conjugale ». La chanteuse française Rose Laurence, qui s'illustra avec le morceau « Africa » tube des années 1980, est décédée à 65 ans dans la nuit de dimanche à lundi, des suites d'une longue maladie, a indiqué son compagnon Christian Soulier à l'AFP, l'agence France-Presse. Elle vous a fait danser par millions en créant Africa et en chantant Quand tu pars et des dizaines d'autres titres. La flamme de Rose Laurence vient de s'éteindre à la suite d'une longue maladie à laquelle elle résistait encore sur la scène du Cabaret Sauvage en 2016, écrit-il dans un communiqué. Une partie de bras de fer oppose le producteur portugais Paulo Branco au Festival de Cannes. La société de M. Branco, Alfama Film, basée en France, a demandé que soit interdite la projection le 19 mai en clôture du rendez-vous de L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, dont la sortie est prévue le même jour en salle française. Ce projet déclaré maudit avait viré au cauchemar lors d'un premier tournage en 2000 qui connut tous les cataclysmes de l'enfer. Le chevalier à la triste figure se voit incarné par Jonathan Pryce dans une adaptation très libre du roman de Cervantes. Un contentieux sur les droits d'auteur oppose le cinéaste britannique au producteur sous couvert de contrats résiliés que Branco conteste. La requête sera examinée le 7 mai, veille de l'ouverture du festival, scellant le sort de sa projection cannoise. Après Quatre ennemis et l'auberge du chien noir, le couple d'auteurs Sylvie Lucier et Pierre Poirier s'attelle au milieu rural dans une dramatique annuelle qui prendra l'antenne de Radio-Canada au cours de la saison 2018-2019. Leur nouvelle saga familiale, sur fond d'intrigues policières et dont aucun titre n'est arrêté pour le moment, s'intéressera au clan de Marie-Luce, incarné par Maude Guérin, l'aînée d'une fratrie de cinq sœurs toutes pourvues d'un prénom composé qui commence par Marie. C'est une femme forte et fragile à la fois qui travaille très fort, a indiqué Maude Guérin, qui se glissera dans la peau de la propriétaire d'une ferme, héritée de son père, mais reconvertie en entreprise bio. Ça se rapproche beaucoup de moi. Je joue souvent des filles très sensuelles et colorées, mais là, j'aime que je vais travailler plus près de la vérité, du personnage que je suis, a reconnu l'actrice originaire de La Tuque.
Les jours et les saisons, la couleur de mes yeux, les paroles des chansons, celles qu'on chantait à deux, le chemin de ta maison. Comment se maquille les yeux, la fête de tes enfants, mais oublie pas mon nom. Tes souvenirs d'avant, je verrai sur eux, je les rattraperai au vent, je te raconterai si tu veux, je nourrai des ficelles, des souvenirs qui s'étialent, et le jour où ils s'envoleront, moi j'en ferai des cerveaux. je t'écrirai que je t'aime. Partout dans la maison. Et si tu m'oublies quand même, juste en dessous y aura mon nom. Et je serai là pour de bon. Et je serai là pour de bon. Je nourris des ficelles à tes souvenirs qui s'étialent. Et le jour où ils s'envoleront, moi j'en ferai des cerfs-volants. Mais oublie pas mon nom.
Tiré de son album Ma petite mamzelle de chemin, c'est Ingrid Saint-Pierre et la pièce Ficelle.
Sujet libre, nouvelle de dernière heure dans la presse. Maxime Bergeron, les 7 députés démissionnaires du Bloc québécois ont confirmé mardi matin la rupture définitive de tous leurs liens avec le parti séparatiste. Ils ont confirmé donc ce matin leur intention de travailler à la conception d'une nouvelle offre politique fédérale. Il s'agit d'une rebuffade majeure pour la chef du Bloc, Martine Ouellette, qui se retrouve avec seulement 2 députés dans la formation qu'elle dirige. La série Les Simpsons a battu dimanche le record du plus grand nombre d'épisodes pour une série à la télévision américaine. Fox a diffusé ce soir-là le 636e épisode de l'histoire de la famille Simpson, dépassant la série western Gunsmoke, c'est ça, qui s'était arrêtée à 635 épisodes en 1975 après 20 années à l'écran. Fox s'est déjà engagé à diffuser la série au moins jusqu'en 2019, lui assurant d'atteindre sa 30e saison. Vitesse réduite, constat d'échec à Beaconsfield. 10 ans après avoir réduit de 50 à 40 km/h la vitesse dans ses rues, Beaconsfield constate qu'une infime minorité d'automobilistes respecte cette limite. Des experts en sécurité routière y voient une autre démonstration que réduire la vitesse sur les panneaux de signalisation ne suffit pas. Il faudrait revoir la configuration des rues pour inciter les conducteurs à lever le pied. Pierre-André Normandin dans La Presse d'aujourd'hui. Donc, c'est son texte à lui. 10 ans d'études, la ville de Beaconsfield a annoncé en 2005 qu'elle prenait le virage du 40 km/h dans ses rues résidentielles afin de tenter de calmer la circulation sur son territoire, une opération qui s'est terminée en 2007. Elle a toutefois continué de recevoir de nombreuses plaintes de citoyens par rapport à la vitesse des voitures. Depuis 10 ans, son comité de circulation a commandé 1 000 000 d'études, 1 001 pour être précis, afin d'évaluer le respect des limites sur divers tronçons. Et les résultats d'une récente compilation de ces études sont sans équivoque. On s'est aperçu, particulièrement dans les zones scolaires, que très peu de gens respectent les limites, se désole Georges Bourrel, maire de Beaconsfield. Beaconsfield a poussé l'exercice plus loin en comparant les résultats obtenus depuis 2007 à ceux de 712 études de circulation réalisées dans les 10 années précédentes. Et surprise, la diminution de 50 km/h à 40 km/h dans les 100 km de rues résidentielles de la municipalité n'a pas entraîné de baisse de la vitesse. La vitesse moyenne est demeurée sensiblement la même, 44 km/h dans les zones de 30 km/h et 46 km/h dans les zones de 40 km/h. La Société de l'assurance automobile voit dans ces résultats une autre démonstration de la banalisation des excès de vitesse. Autant on a réussi à en arriver à un consensus sur la question de l'alcool au volant pour la vitesse, on n'en est pas là, constate Gino Desrosiers, porte-parole de la SAAQ, la SAAQ. La vitesse est pourtant l'une des principales causes des accidents mortels sur les routes du Québec, souligne la Société. La vitesse était l'un des deux principaux facteurs dans 36 % des accidents mortels, soit légèrement plus que l'alcool au volant, 33 %. Pour un piéton, 10 km/h de plus, ça peut faire la différence entre la vie et la mort, ajoute M. Desrosiers. Le cas de Beaconsfield n'est pas unique, estime le maire Bourrel. Je n'ai pas l'impression que nous sommes les seuls, que nous sommes uniques quand on se rassemble entre maires. Les autres aussi se plaignent de la vitesse. C'est vraiment un problème généralisé, dit l'élu. Ces résultats concordent en effet avec plusieurs autres études menées ailleurs en Amérique du Nord, confirme Marie-Soleil Cloutier, directrice du laboratoire Piétons et espaces urbains à l'Institut national de la recherche scientifique. Seulement changer la vitesse ne réglera jamais le problème. L'idée, ce n'est pas de dire que ça ne marche pas, mais il faut mettre autre chose en place, dit la chercheuse. Les spécialistes s'entendent. C'est avant tout la configuration de la rue qui dicte la vitesse de la circulation. Les conducteurs adaptent leur conduite à l'infrastructure et les pancartes ont un effet limité, note Marie-Soleil Cloutier. C'est sûr que si les rues sont conçues pour rouler confortablement à 50 km/h, peu importe la limite, les gens vont avoir tendance à rouler à cette vitesse, ajoute Christian Savard, directeur général de l'organisme Vivre en ville. Ils insistent ainsi pour dire que les villes cherchant à calmer la circulation doivent profiter des travaux dans leurs rues pour en revoir l'aménagement, rétrécir la largeur de la voie, ajouter des arbres pour restreindre le champ visuel des conducteurs, ajouter des saillies de trottoirs pour inciter à la prudence aux intersections. Il faut donner l'impression que même à 30 km/h, ça va vite, illustre Mme Cloutier. À Beaconsfield, le maire Bourrel ne croit pas que la solution soit de distribuer davantage de contraventions pour inciter les automobilistes à lever le pied. On a une bonne coopération avec le SPVM. On donne beaucoup de billets, ce n'est pas ça qui manque, mais c'est difficile de responsabiliser les gens. La ville a donc décidé de privilégier une autre approche en misant sur la sensibilisation. Et pour ce faire, Beaconsfield compte passer par les écoles qui distribueront aux élèves une lettre à remettre à leurs parents, afin de les inciter à ralentir. On veut que les jeunes retournent à la maison et demandent à leurs parents de s'engager à adopter une bonne conduite. Si les écoliers deviennent plus conscients, peut-être vont-ils dire à leurs parents qu'ils roulent trop vite, espère M. Bourrel. Le Centre d'écologie urbaine de Montréal voit d'un bon œil la campagne lancée par Beaconsfield. Ce qui est intéressant avec la mesure de Beaconsfield, c'est qu'on met de l'avant le principe de prudence, qu'on doit être prudent face à l'usager le plus vulnérable sur la route, dit sa directrice générale Véronique Fournier. Cette dernière ajoute que plusieurs campagnes de sensibilisation devraient voir le jour au cours des prochains mois, alors que Québec a débloqué des fonds pour soutenir ces initiatives. Beaconsfield, qui implantera au cours de l'été des appareils pour afficher la vitesse dans certaines rues, bénéficie d'ailleurs du soutien financier du Fonds de la sécurité du ministère des Transports.
Dans
Dans la section Opinion, égalité homme-femme, pourquoi moi? Rares sont les boulots faits sur mesure et cela ne va pas dire qu'on n'en a pas les capacités, bien au contraire. C'est un article, ou plutôt une opinion de Julie Dupage, actrice, chroniqueuse, animatrice et blogueuse. Il y a quelques mois, un parti m'a approché pour connaître mon intérêt pour une implication en politique active. Cet appel m'a fait l'effet d'une bombe. Prise dans les embouteillages de Montréal, j'ai raccroché et n'ai pu m'empêcher de pousser un « Ah ben tabarnouche, pincez-moi, où sont les caméras cachées? » Je rêve de grands rôles à la télé et au cinéma et on m'appelait pour me proposer celui de député de circonscription dans la vraie vie. Quelle surprise! Mon père s'est toujours impliqué en politique pour les Français de l'étranger. Ma grand-mère a été l'une des premières femmes diplômées de l'École des sciences politiques de Paris. Oui, dans ma famille, la politique provinciale, nationale et internationale est importante et se trouve fréquemment au cœur de débats animés, mais de là à faire le saut dans ce domaine. Curieuse et flattée par cette proposition surprenante, je suis allée rencontrer les gens du parti. Je me suis présentée à ce rendez-vous pleine de doutes. Il devait forcément y avoir erreur sur la personne. Ils le réaliseraient bien vite. Les formules de politesse usuelles faites, je n'ai pu m'empêcher de leur demander « Pourquoi moi? » Leur devoir était bien fait. Et ils connaissaient parfaitement leur sujet, ma carrière d'artiste en France, aux États-Unis et au Québec, les nombreuses cordes à mon arc, mes engagements caritatifs depuis des années, mon sens de la communication, mon professionnalisme et même mes opinions sur Julie Lapie. J'étais stupéfaite, pour ne pas dire flabbergastée. Même s'ils m'avaient rassurée et encouragée de façon tangible et concrète, je doutais encore. Et je ne me sentais pas à la hauteur. Je n'y croyais pas. Est-ce qu'un homme dans une situation semblable aurait réagi de la même façon? Probablement pas. Mon amie Isabelle Hudon, maintenant ambassadrice du Canada en France, m'a souvent dit ceci et Sheryl Sandberg tient des propos semblables dans son livre « Lean In » en avant toute. Nous, les femmes, avons tendance souvent à nous excuser et à prétexter un manque d'expertise, alors que les hommes vont sauter sur l'occasion sans se poser même question sur leurs compétences. Si nous voulons un jour atteindre la parité, il faudrait arrêter d'avoir ce réflexe. Rares sont les boulots faits sur mesure et cela ne veut pas dire qu'on n'en a pas les capacités, bien au contraire. Il faut avoir du guts et de l'ambition. J'en ai à revendre et pourtant, doute quand tu nous tiens. J'ai souri en regardant Tout le monde en parle dimanche dernier. Madame Marois évoquait le fait que les femmes sont moins préparées à occuper des fonctions dans le domaine public que les hommes. Bien souvent, elles ne savent pas si elles seront capables de relever un défi, même si elles ont les compétences. Quant à Yolande James, elle parlait de sa journée de prestation de serment comme probablement l'une des plus stressantes de sa vie. Alors, je passe quelques phrases. Après une heure de discussion fort intéressante au cours de laquelle j'ai posé de nombreuses questions, je suis repartie promettant une réponse dans les plus brefs délais. Alors, on se retrouve pour les Par Actualité. Merci Jean-Sébastien Laliberté. Bonne journée à tous.